les soldats vont partir vers les champs de bataille. Il faut leur donner de l'entrain. Oh, le joli discours qu'un officier leur braille avant de monter dans le train.
Ont évacué l'Alsace et dans les forêts de sapins. Sous les yeux des poilus dont le regard les glace, ils s'enfuient comme des lapins. Bientôt Metz et Strasbourg, nous s'ouvrirons leurs portes comme on les ouvre à des amis. Et nous serons reçus par des filles à cordes dont les baisers nous sont promis. Charge à l'arme blanche et nous irons jusqu'à Berlin.
Ils sont là, plusieurs mille, en état de comprendre qu'on les emmène à l'abattoir. Mais chacun pense au fond de son cœur plein de cendres qu'il ne faut pas le laisser voir. Et devant l'imposteur qui leur monte la tête avec le 3-6 des grands mots, la boisson qui perd l'homme et réveille la bête étouffe leur dernier sanglot.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est une émission de notre série consacrée à une évocation de la guerre 1914-1918 à l'occasion de son centenaire. Cette émission s'intéresse plus particulièrement aux premiers mois de la guerre jusqu'à la fin de l'année 1914 à travers la diction d'extraits de carnets ou de lettres de combattants de la guerre 14-18. Tous ces documents sont authentiques, mais pour vous éviter la fastidieuse écoute du nom, du grade et du régiment de chacun des auteurs, nous avons omis de les citer à chaque fois. Deux de ces documents sont extraits d'émissions de France Culture, les autres sont le fruit de nos recherches dans les carnets de guerre et lettres de combattants. Ils sont dits par Combord, homme de lettres et de théâtre, et par ailleurs animateur à Radio Canu de son émission « Petit A dans le mou » et par nous-mêmes en alternance. Ils seront entrecoupés de pauses musicales en relation avec notre sujet « Guerre à la guerre ».
Dans les champs d'herbes vertes, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie, en plein cœur de l'été. Ils avaient pris la route, et les voilà tombés, petits morts du mois d'août, petits morts du mois d'août.
14 août 1914, Chamblay. Chaque fois que je lève la tête, des balles me sifflent aux oreilles ou tombent à mes pieds. On vise les chefs de section. Nos mitrailleuses entrent en action. Mes chasseurs, en blaguant froidement, tirent sur tout ce qui se profile à la crête. Des Bavarois passent en courant, affolés, jusqu'à 1 kilomètre, pendant que des balles les environnent de poussière. Beaucoup tombent, comme dans un jeu de massacre où font les morts. S'ils se lèvent, ils ne vont pas loin. La crête semble couverte de cadavres. Notre mouvement a réussi. Pris dans l'angle de feu par les autres sections, tous s'enfuient ou tombent en jetant ses armes. 30 Bavarois se rendent. J'ai un homme tué à ma section.
Ils vinrent de toutes parts, sénégalais, normands, corse, basque, occitan, algérien, savoyard, auvergnat ou breton. Et quoi qu'il leur en coûte, tous ont rejoint le front. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août.
25 août 1914. À 8 heures, un ordre nous fait changer de tranchée. Mais là, un spectacle inouï se passe. La section de l'adjudant Fagnet, qui se trouve derrière, croit voir arriver des houlanes. Et commande sur nous « Feu à répétition !» Heureusement que nous entendons le commandement. Nous avons juste le temps de nous coucher à plat ventre pour recevoir la décharge. Il nous fusille à 70 mètres. À nos cris de « Fagnet, France, Français, arrêtez tout, cessez le feu !» Et on nous reconnaît. Quelle émotion. Jamais, même devant les Prussiens, je jure de m'être trouvé aussi mal. Je m'étais couché en mettant mon sac devant ma tête, ainsi que mes camarades, de façon à éviter les balles que j'ai entendues siffler pendant quelques minutes à mes oreilles. Une fois remis, nous avons la douleur de ramasser deux camarades blessés, un au ventre, l'autre au poignet. Si ce n'est pas une chose affreuse que la guerre. Voilà sans doute un père de famille victime des balles françaises. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tous les hommes de la section à Fagnet, ainsi que celle du lieutenant Robardet, prirent leurs jambes à leur cou pour se cavaler aussitôt que leurs balles furent tirées. Il fallut au moins une heure pour rassembler tous les hommes qui étaient éparpillés de tous les côtés. Nous dormîmes dans la tranchée, mais d'un œil. Ce branle-bas nous tint sur le qui-vive toute la nuit. Quelle sale nuit! J'avais toujours l'illusion des balles sifflant à mes oreilles, et je pensais que je pouvais être bêtement tué. Nous critiquons tous le capitaine, qui n'eut pour nous aucun mot pour relever notre morale, et même laissa le lendemain au départ les fusils, sacs, paquets de cartouches des types qui s'étaient sauvés. Il ne rendit même pas visite aux blessés. J'ai bien idée qu'il avait peur des balles, plus que nous.
Mes commentaires. Tout d'abord, ne manquons pas de féliciter le capitaine pour sa compassion et l'adjudant Fagnet pour son discernement et son sang-froid. Il le mérite bien, en su des insultes qu'il reçut de tous les militaires pris sous le feu. Ensuite, apprécions l'humour de l'état-major qui indiqua sur l'affiche de Gustave Dupont, mort pour la France le 25 août 1914 à Ans-les-Juvigny dans la Meuse, tué à l'ennemi. Ainsi, en voilà un, grand privilège qui est mort deux fois pour la France, une fois tué à l'ennemi et une fois tué par les balles françaises qui deviennent facilement un peu anonymes une fois dans le corps du soldat. De plus, bizarrement, la sépulture militaire de Gustave Dupont n'existe pas. Son nom n'apparaît pas sur le monument aux morts de Bruay-en-Buissière, dans le Pas-de-Calais, la ville où il est né le 29 avril 1887. Le jugement de son décès a été inscrit sur le registre d'état civil de Bruay le 29 mai 1921, date tardive qui semblerait indiquer que son corps a disparu. À votre avis, tout cela n'est-il pas en rapport avec la réalité cachée de son décès? Par ailleurs, quelques semaines après, le soldat Ovid d'Arras rapporte aussi cet événement.
L'ouragan des combats, ils n'y survivront pas. La moisson est rentrée et les voilà fauchés. Ils n'auront pas le temps de fêter leurs 20 ans. Les voici enterrés. Petit mort de l'été.
12 heures. Départ pour une autre destination. Passons à Étrepie où nous nous arrêtons. Là, quelque chose d'affreux. Le pays complètement brûlé. Des cadavres éparpillés partout. C'est un vrai désastre. L'armée allemande a reçu dans ce coin une formidable raclée. Elle doit être en déroute, puisque nous avançons d'au moins 25 kilomètres. Une dizaine de boches sont d'un tas calciné. J'en frémis en les regardant. Ils ont sans doute été surpris en train de manger, car ils ont tous des biscuits dans la main, ou à côté d'eux. Qu'est-ce à dire après tout ceci? Toujours la même chose. La guerre est horrible. Ceux qui sont responsables de pareils crimes seront sans nul doute condamnés à la damnation éternelle si elle existe. Couchons dans une grange toute traversée par les obus. La pluie tombe sur nous toute la nuit. 12 septembre 1914, Vouillé. Réveil à 3 heures et nous suivons l'état-major. À 11 heures, triste cérémonie, notre compagnie doit exécuter 2 déserteurs du 128e. Je suis désigné pour le peloton d'exécution. 4 sergents, 4 caporaux, 4 soldats de première classe. On amène les déserteurs. Le sergent du Haine, curé, leur donne l'absolution. On les attache chacun à un pommier. Ils se disent au revoir en murmurant. C'est un malheur. À l'abaissement du sabre qui remplace le commandement en feu, ils tombent percés de 12 balles. La mort est instantanée. Vraiment, ça me fait de l'effet. J'en reviens tout pâle. Tant pis. Chacun doit faire son devoir.
Premier mort de la guerre, condamné sans sursis. Petit mort de l'hiver, atroce boucherie. Adieu les fiancés, au village tranquille. Bienvenue aux tranchées, petit mort inutile. Petit mort inutile.
25 août 1914, Roselueur. Nous avançons en bon ordre. Les Allemands paraissent reculer. Lorsque, soudain, une contre-attaque terrible nous oblige à reculer. C'est une débandade générale sous une grêle de balles et d'obus. Nos soldats tombent par paquets. C'est épouvantable. Notre artillerie protège notre retraite. Lorsque nous nous reformons, de ma compagnie, sur environ 250 hommes, il en reste 90.
26 août 1914, Roselueur. Départ 3h30, on marche en avant. Les Allemands ont reculé. On traverse le terrain que nous avons battu hier. C'était criblé d'obus. Triste coup d'œil à voir, des morts à tous les pas. On peut à peine passer sans leur passer dessus. Les uns sont couchés, les autres à genoux, d'autres assis, et d'autres qui étaient en train de manger. Le pain leur restait à la bouche. Des blessés tant qu'on en veut. Quand on voyait qu'ils étaient presque morts, on les achevait à coups de revolver.
Cible de premier choix, en pantalon carence. Ils n'imaginaient pas de mourir pour la France. La guerre me sont contents de tripailles et de sang jusqu'à la dernière goutte. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août.
31 août 1914, Fossé, Ardennes. Là, toutes les troupes. Les granges étaient déjà pleines et le service divisionnaire n'avait pas encore commencé l'évacuation. L'état d'équipement, de fusils, de baïonnettes couverts de sang indiquait devant chaque ferme le refuge des malheureux. En entrant, on y trouvait là, étendus côte à côte sur la paille, des morts et des mourants, ainsi que d'autres moins gravement touchés et qui réclamaient à boire. Mais nous n'avions à leur donner qu'un peu d'eau que l'on tenait toujours en réserve dans notre bidon, à laquelle nous ajoutions un peu d'alcool de menthe pour calmer leur fièvre. Toute la journée se passa à soigner nos chers camarades et à aider les majors dans leurs opérations si besogneuses au milieu d'une odeur de sang caillé en décomposition.
Dans les champs d'herbe verte, la guerre était tapie. sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août.
Septembre 1914. La retraite s'accentue de plus en plus et prend les proportions d'une déroute effroyable. Des fourgonniers vident sur la route le contenu de leur voiture pour s'alléger. Des conducteurs de caissons de 155 abandonnent des projectiles. Sur la route, il est défendu, sous peine de mort, de couper une colonne en marche. Défendu aussi aux conducteurs de voitures, caissons, fourgons, chariots de parc, de trotter. La prévôté veille à l'exécution de ses ordres. Je vois un capitaine de gendarmerie flanquer deux balles de revolver au conducteur d'un fourgon qui a trotté une dizaine de mètres pour rejoindre sa colonne.
Samedi 5 septembre, 5 heures du soir. Comme nouvelle, on dit que le 1er septembre, il y a eu des artilleurs du 38e de Nîmes qui ont eu peur et qui se sont enfuis avec leurs chevaux, laissant sur place les canons et leurs servants. Le lendemain, on en aurait fusillé 75 aux environs d'Étain. On dit aussi que le 312e de ligne aurait refusé de marcher au moment de combattre. Le général a été obligé de mettre revolver au poing pour les obliger à marcher. Ça n'a pas réussi, alors il a dirigé sur eux deux batteries d'artillerie et ils se sont décidés à la fin de la journée.
Ayant obligé l'homme de la terre à quitter l'outil des labeurs féconds, pourquoi s'étonner du train militaire qui va chez la mort remplir ses wagons? Pourquoi franchement ne pas dire au monde ce que chaque jour j'ai mis notre cœur? Le champ dévasté par la guerre immonde est un abattoir plus qu'un champ d'honneur.
6 septembre 1914. Aussitôt, avec des pelles bêches, l'on se construit chacun une petite tranchée. Plusieurs camarades sont tués ou blessés. L'on donne l'ordre de nous porter en avant coûte que coûte. Nous marchons et allons occuper un petit bosquet à 300 mètres de la crête, et la section se pose en tirailleur à la sortie de ce petit bosquet. L'ennemi est à 200 mètres. Les balles sifflent. Nous exécutons plusieurs feux. Mais bientôt, plusieurs groupes de tirailleurs, placés à notre gauche en terrain découvert, dans un champ de betteraves, se replient sur nous. Notre mouvement est vu par l'artillerie ennemie, qui aussitôt balaie le bois avec ses 77 mm. En un quart d'heure, le bosquet est fauché. La moitié de la section y reste, autant en tués qu'en blessés. Je suis culbuté par le déplacement d'air fait par un obus, et reçoit un shrapnel au pied gauche qui me coupe toute la semelle. Je ne ressens qu'une contusion. L'adjudant est blessé mortellement. Il n'y a plus moyen de tenir.
Ayant obligé les hommes des villes à suivre au charnier l'homme des sillons, pourquoi mépriser les hordes serviles dont les étendards sont des guenillons? Pourquoi de grands mots, de formules creuses, travestir des faits qui nous font horreur? le champ moissonné par les mitrailleuses est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur.
Dimanche 6 septembre 1914, Chambry. À 5 heures, départ. On nous a redonné toutes les cartouches et on a marché jusqu'au soir. On était esquintés, vannés. Le canon tonne sans interruption. On a marché toujours sans manger. Le capitaine et le lieutenant ont dit qu'ils brûleraient la cervelle au premier qui s'arrête.
30 septembre 1914. Les journaux d'aujourd'hui racontent que le gouvernement fait préparer des tricots et des gangrènes pour les soldats. Ils n'auraient pas sans doute l'intention de nous faire passer l'hiver ici, ces messieurs. Ce serait bigrement terrible. Et qu'est-ce que ce sera s'il faut rester encore 3-4 mois?
Ayant obligé l'artiste qui râle à laisser mourir son rêve chantant, pourquoi déplorer la chute brutale des temples bâtis par la foi d'antan? Pourquoi célébrer la grandeur du geste qui, dans l'autre camp, sème la terreur? Le chant qu'au vautour dispute la peste est un abattoir, plus qu'un chant d'honneur.
Compiègne, 15 octobre 1914. Jamais on n'a vu et entendu parler d'une guerre comme celle-là, des tranchées de 2 à 3 mètres de profondeur, à 400 mètres les unes des autres. Toutes leurs attaques sont repoussées par nos fantassins et l'artillerie. Nous opérons cavalerie contre cavalerie. Aussitôt qu'ils voient nos sabres tirés, ils font demi-tour. Ils ont peur de l'arme blanche. Au camp de Châlons, au camp d'aviation de Mourmelon-le-Grand, j'ai eu un jour de plaisir, car nous étions formés en peloton avec les voitures. Nous avons chargé sur un escadron de houlans saxons, la section seule, tu parles de les enfiler. J'ai un camarade qui a eu le bonheur d'en tuer 3 et en blesser 2. Moi, pas tant de veines, 2 morts, 2 blessés et 1 cheval pour ma part. Puis on a dégagé les voitures et on les a finis à coups de mitrailleuse. C'est horrible et beau. Que vivement on nous emmène sur un champ de bataille pour en faire autant. Jusqu'à présent, je n'ai eu que mon casque de démoli par un coup de lance et mon sabre tordu 3 ou 4 fois. Enfin, tout va bien. Et j'espère encore en tuer d'autres avant d'aller vous embrasser. Mon Didier, 21 octobre 1914, lettre à mon frère Raoul. Celui qui n'a jamais vu la guerre ne peut même pas s'en douter. C'est beau de voir la guerre, mais c'est triste aussi, que l'on peut croire qu'il faut s'entretuer les uns aux autres. Le plus terrible, c'est encore la lutte à l'arme blanche, avec le sabre sans filet. C'est terrible. Pourtant, en ce moment-là, on n'y pense pas, plus que de tuer un lapin. Je ne te souhaite pas d'y aller, car il y a assez de moi dans ce travail-là. Car une guerre comme ça, c'est effroyable. Jamais on l'a vu, jamais on le verra.
Secteur de Pervise, Belgique, le 27 octobre 1914. L'action continue d'être très vive. Nous sommes tous mélangés, Belges et Français. Les obus pleuvent dru. Il y a beaucoup de tués et de blessés. Nous ne recevons pas de vivres. Nous mourons de faim. Notre capitaine a été blessé hier. Il y a très peu d'hommes de la compagnie. Les Allemands creusent une tranchée à 250 mètres. Ils hissent le drapeau blanc. Nous voyons qu'ils jettent leurs morts au-dessus d'un parapet. Épuisé, je vais à la recherche de ma compagnie, qu'on me dit être à Capelle.
ayant obligé des mains fraternelles à rougir de sang les fleurs du chemin. Pourquoi poudrer d'or les funèbres ailes couvrant plein azur le mensonge humain? Temps nouveau, progrès, liberté, justice, miroir d'Histrion, hochet d'empereur, le chant couvre aux gueux, leur vain sacrifice est un abattoir, plus qu'un chant d'honneur.
1er novembre 1914, parc du château de Fontenoy, N. Les tombes qui s'y trouvent sont presque toutes du 292e régiment d'infanterie. On y remarque beaucoup d'officiers de ce régiment. Le destin semblait vouloir, en ce jour de fête des morts, nous placer là. Il fait beau. Les hommes, sans commandement, fabriquent des couronnes de lierre et recherchent des fleurs. À 12 heures, ce vaste cimetière improvisé est propre et les vastes fosses communes sont recouvertes de fleurs.
Mercredi 18 novembre 1914. Mes chéris, il est 10h du matin. Un soleil splendide. De mon lit où je viens de prendre mon café, après avoir mangé une bille de chocolat, car ne vous déplaise ici, messieurs, se paie du chocolat. Je contemple le panorama de la campagne blanchie par une épaisse couche de gelée blanche. Un ruisseau, la Suippe, serpente à 10 mètres de notre porte, à travers une étendue de roseaux. Tout cela est magnifique quand nous faisons les rentiers, car je vous répéterai que nous sommes rentiers encore assez souvent. Pas toujours, car la nuit dernière, de minuit à 3 heures, nous avons été à quelques centaines de mètres de nos amis les Boches, pour faire des tranchées, et toujours des tranchées. On est là face à face et personne ne se voit, tout le monde est sous terre. On ne peut pas tirer un coup de fusil ici, si ce n'est au perdreau, et il n'en manque pas. De temps à autre, quelques échanges d'obus qui passent en sifflant par-dessus nos têtes, et c'est tout. Je ne sais combien cela durera, mais voilà un mois que nous sommes là. Et nos prédécesseurs y étaient déjà un mois avant nous. Cela fait 2 mois sans avancer d'un pas. Il est vrai que nous sommes là exprès. Nous ne devons pas avancer, mais nous ne devons pas reculer non plus. Et voilà tout. Il faut avoir de la patience, eh bien, patientons. 2 ou 3 000 baisers à chacun de vous et je me lève pour aller manger la soupe. Martin.
Si je meurs, mes amis, d'espoir et de misère, vous m'ensevelirez sans cercueil dans la terre. Que m'importe le coin face au fil barbelé, dans le trou d'obus neuf marneux roussi pelé. Sous un peu d'herbe verte ou dans notre tranchée, sous le tronc qui bénit de sa branche arrachée, sous le cheval crevé, sous le clocher flambé, mais gardez-moi le sol où je serai tombé.
Vendredi 20 novembre 1914. La nuit dans la tranchée, tranchée de deuxième ligne, le long de la route. Elle est bien installée, formée de petites niches individuelles avec de la paille. On peut y dormir. Voici leur aspect. Si maladroit que je sois, ça vous donnera une idée. On déroule le couvre-pied et bonsoir. Je m'éveille tout à coup. Partout des coups de fusil. Mes voisins s'éveillent aussi et bouclent les sacs en vitesse. Ils mettent bidons et musettes. Les Boches attaquent. Les balles sifflent. Visage ahuri et inquiet, silhouette qui passe sur la route en courant et en se baissant, on va renforcer la tranchée à quelques pas. Je me fous par terre dans du fil de fer coupé, et d'autres aussi. Et l'on se précipite dans les trous de tranchée n'importe comment. On se terre au fond, assez inquiet. Ordre de ne pas tirer. La fusillade se calme. Elle traîne et cesse. On se redresse un peu. On respire. On regagne sa place. Il y a un blessé au pied. C'est notre caporal. Des officiers du génie viennent. Voix lointaine, bruit de dispute. La section du lieutenant aurait tiré sur les nôtres. C'est terrible. La fréquence et la répétition, malgré tout, de ces erreurs. Patrouille, sentinelle, malgré les recommandations, tire à tort et à travers. Nos 75 envoient quelques percutants. On respire. On l'a échappé encore ce coup-ci. On mange. On se recouche. On se rendort.
Vos yeux se mouilleront et vos mains maternelles auront des gestes doux pour me remplacer celles de ma mère dont les amours me manqueront et vous disposerez mes cheveux sur mon front. Vos mots d'adieu seront la chaleur qui dorlote et vous boutonnerez sur mon sang ma capote. Vous croiserez mes doigts que je parte plus beau comme un chrétien paisible au seuil du grand repos.
Rubruck, 27 novembre 1914. Lettre à mes parents. À Ypres, le 12 novembre, ma section de mitrailleuses est désignée pour tenir un pont jeté sur l'Isère. Nous creusons une tranchée et les fusées nous révèlent une forte colonne de 12 000 hommes environ arrivant vers nous. Quand ils sont à 1200-1300 mètres, nous tirons lentement. Ils avancent croyant qu'il n'y a que quelques fusils. Arrivé à 800 mètres de nous, le lieutenant dit « Feu rapide !» et je te jure que les premiers descendaient. Les seconds passaient par-dessus pour tomber foudroyés un peu plus loin. C'était des boches, c'était effroyable, mais comme c'était des boches, c'était beau. Ils n'ont pas pu s'approcher. Plus de 200 morts et ils ont battu en retraite. Ce n'est pas fini. Le matin, à l'aube, il nous arrive de gros obus, des marmites. Toute la journée, impossible de changer. Et la nuit, pareil. Le lendemain soir seulement, nous avons pu aller nous reposer et aller manger. Mais ça ne fait rien, car les Boches ont été très bien salués, en laissant près de 6500 blessés et morts sur le terrain. Voilà le travail que nos mitrailleuses ont fait le 12 novembre 1914. Voilà, chers parents, ce que l'on voit ici très souvent. Rubruck, 30 novembre 1914. Lettre à mes parents. À l'heure où je vous écris, je reviens de faire avec mes camarades une chose bien triste. Je reviens de faire partie d'un peloton d'exécution. Un poilu qui s'est absenté toute une journée est revenu saoul à engueuler tout le monde et les officiers. Il avait déjà eu 55 jours de prison et ne soignait pas bien sa jument. Il faisait partie de ma section. C'est triste. Mais il le faut, puisque c'est la guerre.
Vous me couvrirez bien de terre parfumée, de celle d'où je viens et que j'ai tant aimée. Vous les pendrez sur moi comme un velours de mort. Son âme épousera la forme de mon corps, et fier de mes 20 ans, engrainé dans la glaise, je pourrirai content dans ma terre française.
Le 10 décembre 1914, départ à 3 heures pour relever le 29e à la haute chevauchée. J'ai fait la route sans trop de peine. Nous arrivons dans les boyaux communiquant aux tranchées qui se trouve à certains endroits à 5 mètres des tranchées boches. Les boyaux sont remplis d'eau et de boue jusqu'à la cheville. Il n'y a pas moyen d'avoir de repos. Il fait un temps affreux et nous avons l'impression et le pressentiment que nous ne quitterons pas ces tranchées sans événement grave. 11 décembre, nos pressentiments étaient justifiés. Le matin vers 9 heures, il se produit une violente explosion sur ma droite. Ce sont les Boches qui ont pratiqué un trou de mine souterrain sous notre tranchée qui saute avec les hommes qui se trouvent à cet endroit. Ces hommes sont tous tués et quelques-uns sont en morceaux. À 16 hommes dont je fais partie, nous nous trouvons à côté de l'explosion. Nous avons à peine le temps de nous mettre sur la défensive que les Allemands nous entourent et nous font prisonniers. Les 5e et 6e compagnies ont le temps de se ressaisir et combattent pendant environ 4 heures, mais sont obligés de reculer après avoir perdu environ 200 morts et blessés et exactement 196 prisonniers, dont 2 officiers. Il est vraiment extraordinaire que je n'ai aucune blessure.
Puis sur mon tertre nu, vous mettrez une croix, vous prierez coude à coude une suprême foi, vous trouverez la plus sublime des prières, et mon tombeau sera plus grand qu'un cimetière, vos gros doigts en tremblant rongeront mon massif, gravé par vos couteaux d'ornement très naïf, enjolivez mon nom, vivra sur une branche, roi d'un palais d'éclat d'obus.
Rubruck, 24 décembre 1914. Hier, dans la tranchée, il s'est passé quelque chose qu'il faut vous dire. En face de nous, à 30 mètres, il y avait des Bavarois. À notre gauche, les Prussiens, et à droite, les Saxons. Les Bavarois sont très chics, car ils sont venus nous voir dans la tranchée, ils nous ont dit
« Vous, Français, tirez pas, nous non plus. Pendant 2 jours, pas un coup de fusil. »
Puis moi, avec le lieutenant, nous avons été chercher un journal bavarois. Ils nous ont offert des cigares, des cigarettes. Le lieutenant leur a donné un paquet de Maryland, et moi, 2 bâtons de chocolat que j'avais touchés la veille. Il a fallu leur serrer la main à tout prix. Puis, on a retourné dans notre local. Le lendemain, des fantassins, des avant-postes ont pris le café ensemble, avec l'avant-poste Bosch, et ils disaient « Se méfier, Prussiens dans le bois à gauche ». Tirer dessus avec mitrailleuse. Je crois qu'ils vont faire réveiller ensemble. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais ça n'a pas été pareil partout ailleurs et pas toujours.
Sur le sol éventré, s'il sourit une fleur ou deux, portez-les-moi. Je préfère qu'un cœur de mes soldats me garde un peu d'amour qui veille. Vous écrirez mon âge aussi dans la bouteille. Quand vainqueur vous aurez retrouvé votre seuil, dites songeant à moi, sans retour, sans cercueil. Ces simples mots qui sont d'immortelles semences, c'était un brave gars. Il est mort pour la France.
Secteur de Fay, Somme, décembre 1914. Vers 15 h, à la première compagnie sur notre gauche, à la hauteur du bois carré occupé par l'ennemi, en un point où les tranchées ne sont distantes que d'une centaine de mètres, un dialogue s'est engagé entre Français et Allemands. De part et d'autre, l'on fait des signes d'amitié. Voici qu'un de nos caporaux mitrailleurs quitte notre tranchée. Un gradé ennemi fait de même. Ils se rejoignent, se serrent la main, échangent des cigarettes et descendent l'un et l'autre dans la tranchée adverse. Bientôt, c'est un défilé de soldats ennemis dans nos tranchées. Il en vient 8, des Bavarois qui, une fois chez nous, ne veulent plus retourner là-bas. Quant à notre caporal, il est renvoyé chez nous avec force cigares et cigarettes. Questionnés, nos prisonniers volontaires avouent une grande lassitude de la guerre et nous préviennent en outre que les Prussiens, nos vis-à-vis, ont décidé de nous attaquer cette nuit.
Si je meurs, mes amis, d'espoir et de misère, vous m'ensevelirez sans cercueil dans la terre. Que m'importe le coin face au fil barbelé, dans le trou d'obus neuf, marneux, roussi pelé, sous un peu d'herbe verte ou dans notre tranchée, sous le tronc qui bénit de sa branche arrachée, sous le cheval crevé, sous le clocher flambé, mais gardez-moi le sol où je serai tombé. Vos yeux se mouilleront et vos mains maternelles auront des gestes doux pour me remplacer celles de ma mère dont les amours me manqueront, et vous disposerez mes cheveux sur mon front. Vos mots d'adieu seront la chaleur qui dorlote, et vous boutonnerez sur mon sang ma capote. Vous croiserez mes doigts que je parte plus beau, comme un chrétien paisible au seuil du grand repos. Vous me couvrirez bien de terre parfumée, de celle d'où je viens et que j'ai tant aimé. Vous les pendrez sur moi comme un velours de mort. Son âme épousera la forme de mon corps, et fier de mes 20 ans, engrainé dans la glaise, je pourrirai content dans ma terre française. Puis sur mon tertre nu, vous mettrez une croix, vous prierez coude à coude une suprême foi. Vous trouverez la plus sublime des prières, et mon tombeau sera plus grand qu'un cimetière. Vos gros doigts en tremblant rongeront mon massif, gravé par vos couteaux d'ornements très naïfs. Enjolivé, mon nom vivra sur une branche, roi d'un palais d'éclats d'obus de pierre blanche. Sol éventré, s'il sourit une fleur ou deux, portez-les-moi. Je préfère qu'un cœur de mes soldats me garde un peu d'amour qui veille. Vous écrirez mon âge aussi dans la bouteille. Quand vainqueur vous aurez retrouvé votre seuil, dites songeant à moi, sans retour, sans cercueil. Ces simples mots qui sont d'immortelles semences, c'était un brave gars, il est mort pour la France.
La guerre 1914, le pacifisme intégral. Extrait d'un ouvrage de l'Union pacifiste de France, le 3 juin 1966. Les marchands de canons, dont les principaux étaient Schneider en France et Krupp en Allemagne, étaient étroitement unis en une sorte de trust international, dont le but secret était d'accroître l'immense fortune de ses membres, en augmentant la production de guerre de part et d'autre de la frontière. À cet effet, il disposait de moyens puissants pour semer la panique parmi la population des deux pays, afin de persuader chacune que l'autre n'avait qu'un but, l'attaquer. De nombreux journalistes, des parlementaires, étaient grassement rétribués par eux pour remplir ce rôle. D'ailleurs, un important munitionnaire français, De Vandel, député de surcroît, avait pour cousin un autre munitionnaire allemand, von Vandel, siégeant au Reichstag. Ils étaient aux premières loges dans chaque pays pour acheter les consciences et faire entendre leurs cris d'alarme patriotiques. Tout ce joli monde, marchands de canons, journalistes et parlementaires, parvint aisément à lancer les deux peuples dans une folle course aux armements que rien ne devait plus arrêter jusqu'à la guerre. Leurs chefs d'État respectifs, loin de les freiner, les encourageaient. et notamment notre président de la République, Raymond Poincaré, un Lorrain élevé dans l'idée de revanche et prêt à n'importe quel mensonge, à n'importe quel forfait pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Une de ses déclarations, sans phare, met à jour sa mentalité. Citation. « Dans mes années d'école, ma pensée, assombrie par la défaite, traversait sans cesse la frontière que nous avait imposée le traité de Francfort. Je ne voyais pas à ma génération d'autre raison de vivre que l'espoir de recouvrer mes provinces perdues. » Fin de citation. C'est pour ces différents motifs que les soldats allemands et français allaient s'entr'égorger 4 ans durant. On leur avait appris à se haïr, alors que les munitionnaires et les états-majors, fraternellement unis, suivaient avec satisfaction, à l'arrière, les déroulements du drame qu'ils avaient conjointement déclenché. Pour bien approfondir cet immense duperie, et pour que vous compreniez bien que patriotisme et défense du territoire ne sont que des mots creux servant à couvrir les plus abominables tripotages, il convient de raconter avec quelques détails l'histoire du bassin de Briey, car elle est caractéristique, symptomatique, et à elle seule devrait dégoûter à jamais les peuples de prendre les armes. Les mines de fer de Briey-Thionville étaient à cheval sur les frontières du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne. La famille franco-allemande de Vandel en était propriétaire. Ce bassin était d'une importance capitale pour le déroulement de la guerre. Monsieur Angerand, dans un discours prononcé à la Chambre des députés après le conflit le 31 janvier 1919, dira « En 1914, la seule région de Briey faisait 90% de toute notre production de minerai de fer. » Poincaré lui-même avait écrit autrefois, l'invasion, page 48, « L'occupation du bassin de Briey par les Allemands ne serait rien moins qu'un désastre puisqu'elle mettrait entre leurs mains d'incomparables richesses métallurgiques et minières dont l'utilité peut être immense pour celui des belligérants qui les détiendra. » Or, il se passa un fait extraordinaire. Dès le 6 août 1914, le bassin fut occupé par les Allemands sans aucune résistance. Plus extraordinaire encore, le général de division chargé de cette région, le général Vérot, révéla par la suite que sa consigne, contenue dans une enveloppe fermée à ouvrir en cas de mobilisation, lui prescrivait formellement d'abandonner Briey sans combat. La vérité, connue longtemps après, était la suivante. Une entente avait été passée entre certains membres de l'état-major et des munitionnaires français pour laisser le bassin aux mains des Allemands afin que la guerre se prolonge. Les Allemands n'auraient pu la poursuivre sans le minerai de fer et que les bénéfices des marchands de canons soient accrus. Et vive la légitime défense au nom de laquelle on s'étripait un peu partout sur les champs de bataille. Mais cette histoire ô combien édifiante n'est pas terminée. Pendant tout le conflit, il n'y eut pas une seule offensive française contre Briey. Ce n'était pourtant pas faute d'avertissement. En effet, en pleine guerre, le directeur des mines envoyait la note suivante au sénateur Béranger. « Si la région de Thionville était occupée par nos troupes, l'Allemagne serait réduite aux quelques 7 millions de tonnes de minerais pauvres qu'elle tire de la Prusse et de divers autres États. Toutes ces fabrications seraient arrêtées. Il semble donc qu'on puisse affirmer que l'occupation de la région de Thionville mettrait immédiatement fin à la guerre parce qu'elle priverait l'Allemagne de la presque totalité du métal qui lui est nécessaire pour ses armements. L'état-major français et le président de la République furent abondamment avertis de ces faits. Des dossiers complets sur cette affaire furent même fournis à Poincaré par le député Angerand. Poincaré refusa d'intervenir. L'état-major refusa toute offensive du côté de Briey. À défaut d'offensive, de reprise du terrain, on aurait pu bombarder Briey pour rendre inutilisables les installations. Au contraire, des accords secrets furent passés entre les états-majors allemands et français afin que les trains remplis de minerais se dirigeant vers l'Allemagne ne fussent en aucun cas bombardés. En passant, disons que, bien entendu, ces mêmes états-majors avaient décidé également de ne pas détruire leurs quartiers généraux respectifs. Ces deux bandes de gangsters étaient régulières. Des aviateurs français, néanmoins, désobéirent aux ordres reçus et lancèrent quelques bombes sur les installations de Briey. Ils furent sévèrement punis. Et savez-vous par quel intermédiaire les directives secrètes d'interdiction de bombarder avaient été données? Par un certain lieutenant Lejeune, tout puissant, bien que simple lieutenant, qui dans le civil avant la guerre était ingénieur attaché aux mines de Jeuf et employé de M. de Vandel, dont, faut-il le rappeler, aujourd'hui en 2014, le baron Sellière est un illustre dirigeant descendant. Pour conclure, nous ne saurions mieux faire que de citer Jean Galtier-Boissière. Pour ne pas léser de très puissants intérêts privés et pour éviter d'enfreindre les accords secrets conclus entre métallurgistes allemands et français, on a sacrifié dans des entreprises militaires inefficaces des centaines de milliers de vies humaines, sauf sur un point, Briey-Thionville, dont, durant 4 années, l'Allemagne, en toute tranquillité, a tiré les moyens de continuer la lutte. Mais la famille franco-allemande de Vandel faisait de colossaux bénéfices.
Petits soldats de France, le jour des poires est arrivé pour servir la haute finance. Allez-vous-en là-bas à crever, allez-vous-en là-bas à crever, tandis qu'au cœur de la fournaise vous tomberez une balle au front. De nos combines nous causerons en fredonnant la Marseillaise. Aux armes les enfants, formez vos bataillons, marchez, marchez, nous récolterons dans le sang des sillons. Allez, guerriers pleins de courage, petits fils de la liberté, allez réduire en esclavage de pauvres harpies épouvantées dans leur douaire que les canons tonnent plus fort que le tonnerre d'Allah. Nous alignerons pendant ce temps-là des chiffres en longue colonne. Allez-y que les cadavres s'entassent par centaines et par milliers, que la plaine où les balles passent ne soit plus qu'un immense charnier dans le récit de toutes ces misères. En ouvrant le journal de demain, nous songerons nous frottant les mains. Ça ne dit pas trop mal les affaires. Allez, si les autres voraces, si tous les requins d'outre-Rhin font en ce moment une sale grimace, ça nous défrise pas le moindre brin. Une nouvelle guerre, on s'en fout, puisque c'est vous qui marcheriez encore pour défendre nos coffres-forts. Alors franchement, nous, qu'est-ce qu'on risque? Nous entrerons dedans la place après que vous n'y serez plus. Nous y trouverons vos carcasses, près des carcasses des vaincus, et sur les tombes toutes proches, se rejoignant à 2 pieds dans le sol, avec l'or du meurtre et du vol, nous emplirons froidement nos poches. Aux armes les enfants, formez vos bataillons, marchez, marchez, et nous récolterons dans le sang des sillons.
Ainsi se termine cette émission de notre série « Guerre à la guerre » à travers des évocations anti-hagiographiques de la guerre 1914-1918. Cette émission était composée d'extraits de lettres ou carnets de guerre de combattants, dits par Combord, homme de lettres et de théâtre, et par ailleurs animateur à Radio Canu de son émission Petit A dans le Mou. Nous le remercions chaleureusement d'avoir bien voulu apporter sa contribution à ce travail radiophonique. Il y a aussi quelques dictions extraites d'émissions de France Culture que nous remercions. Les illustrations musicales que vous avez entendues sont soit des documents intégraux ou présentées en extrait de « Avant le départ » de François Guernier, paroles et musique interprétées par Tichot, de la chanson de Dominique Grange qu'elle interprétait « Petit mort du mois d'août », de la chanson interprétée par Tichot sur une musique de François Guernier et sur un texte d'Eugène Bizot, « Le chant d'honneur ». Puis vous avez entendu aussi le « Testament du fantassin » de Paul Verlet pour les paroles, François Guernier pour la musique et toujours Tichot pour l'interprétation. Et enfin, « La Marseillaise des requins » interprétée par Bernard Melien sur un texte de Gaston Couté. Bonsoir. Thank you.